La Hussarde. Hussard.
Salut Caro, au boulot.
Ah bah salut. Ah donc il n'y a plus de café, il n'y a plus de bis, plus rien, le travail, rien que le travail, toujours le travail. On était bien partis pourtant, Thomas. Ah bah ok, ok. Travail, alors carrousel du Louvre, hymne à la joie, Brigitte.
Oui, c'est l'image qu'on gardera de cette victoire, hein, sa déambulation dans la cour du Louvre, à côté de la pyramide, lui et sa femme sur l'estrade. Mais non, t'as raison, comme on a enchaîné deux épisodes, j'ai oublié le rituel. Bonjour Caro. Alors, tu veux un café? Long, court?
Long sucré, s'il te plaît.
Bon, je vais les chercher, allez.
Merci. Ouais, alors, j'en profite parce qu'il n'est pas là, mais moi, franchement, Macron et Brigitte dans la cour du Louvre, ben, je préfère Belphégor, mais de loin. C'est un super feuilleton, Belphégor. Ce qui est génial, c'est qu'on peut maintenant, on peut le regarder dans les archives de l'INA. Macron aussi, d'ailleurs, il adore fouiner dans les archives de l'INA. Ça nous fait un point commun. Bon, allez, on recommence. Scène 1, 2e.
Cyril Gradiani au carrousel du Louvre. Je vois sur mes écrans que ça commence à s'agiter et que Emmanuel Macron fait son entrée.
Et exactement, il fait son entrée sous un air bien connu, l'hymne à la joie, l'hymne européen. Emmanuel Macron s'est avancé dans un coin de l'esplanade du Louvre. Une entrée théâtralisée, on va dire, il marche doucement.
Oui, qui rappelle François Mitterrand au Panthéon, hein, pour les plus vieux d'entre nous.
Il est seul, là, pour le moment.
Oui, dans une mise en scène qui est assez étonnante, hein, qu'on n'a pas vue depuis très longtemps. Hein.
Pour tenter de percer ce mystère de l'incarnation, Michel Cotta. Bonjour Michel Cotta.
Bonjour.
Dans ce numéro de À la Hussarde, on ne parlera pas du macronisme idéologique, hein, de son programme ou de son positionnement politique. Tout ça fait l'objet d'une autre émission que vous pouvez d'ailleurs podcaster sur le site de France Inter. Nous parlerons aujourd'hui de la conception du pouvoir d'Emmanuel Macron, de sa présidentialité, de sa place dans la 5e République. Et d'abord Michel Cotta, racontez-nous votre 7 mai 2017. Quelle a été votre réaction en voyant Emmanuel Macron apparaître dans la cour du Louvre comme ça, dans une mise en scène olympienne avec cette aisance, hein, déjà présidentielle?
Moi, je me suis dit d'abord que Anne Hidalgo lui avait rendu un service formidable, parce que comme vous savez, il voulait faire ça au début auprès de la Tour Eiffel et ça lui a été refusé, donc il s'est rabattu en quelque sorte sur ce carré du Louvre et de la pyramide, et c'est ça qui est formidable, c'est que c'était exactement fait pour la mise en scène qu'il avait sans doute imaginée. Il fallait sortir de ce couloir où tout seul, avec les projecteurs qui le suivaient,
comme une apparition,
arriver, marcher assez longtemps. Vous avez cité Mitterrand, mais c'est évidemment l'image de Mitterrand remontant jusqu'au Panthéon, hein, qui l'a inspiré.
À pas très lent.
À pas très lent, bien sûr, à pas mesurer, comme s'il avait fait ça toute sa vie.
Alors, ce qui est amusant et ce qui nous arrive souvent en tant que journaliste politique, c'est que là, vous nous dites que c'est un hasard, il aurait voulu faire ça ailleurs. Et comme il a fait ça au Louvre, pendant que ça se passait, on a trouvé des tas de raisons très calculées. On a fait de la post-rationalisation et on a dit qu'est-ce qu'il est intelligent d'avoir trouvé le Louvre.
Il faut dire que, oui, c'est ça. Et quand vous dites, vous avez essayé de préparer de longue date, moi je me demande à partir de quand essayer de préparer, parce que quand on a 39 ans, on commence pas à se préparer à 20 ans, mais néanmoins je pense qu'il avait beaucoup observé déjà ceux qui ont marqué la 5e République, et surtout il avait beaucoup observé François Hollande.
Il paraît qu'il est un fan des archives de l'INA et qu'à l'époque il allait voir les archives de l'INA pour voir comment se comportaient les présidents.
Absolument, c'est vraiment méthodique, un peu comme tout ce qu'il fait, et alors on voit bien qui l'a inspiré. Bon, c'est nettement François Mitterrand, et à l'inverse c'est François Hollande, c'est-à-dire que...
Oui, parce qu'il faut dire que il a vu François Hollande à l'œuvre. François Hollande avait un problème de présidentialité. Un peu aussi Nicolas Sarkozy avait ce problème.
Absolument.
Donc ses deux prédécesseurs, c'était une question pour lui. Il y avait un problème d'incarnation, un problème de confiance.
Bien sûrement. Il devait se demander depuis longtemps pourquoi est-ce que ces deux présidents-là n'incarnaient pas vraiment la présidence de la République gaullienne, etc.
Alors, pourquoi dire, alors pourquoi vous alors, les avez tous connus?
D'abord, je vais vous dire, il y a une question de taille. Ça a l'air idiot, mais c'est vrai que pour Giscard d'Estaing et Jacques Chirac, c'était plus facile. Mais celui qui s'est imposé, pourtant, c'est François Mitterrand.
Mitterrand, 1m72. Bon, Ça aurait pu rater, ça aurait pu être complètement ridicule, cette marche lente comme ça, dans cette cour du Louvre. C'était quand même un quitte au double. C'est comme s'il avait bien intégré alors la fameuse théorie de Kantorowicz, dont on parle beaucoup, les deux corps du roi. Il a réussi, le corps privé et puis le corps public, il a réussi à
mélanger les deux.
Alors oui, je voulais te dire, il y a un truc que j'ai pas compris. C'est le corps du roi. C'est une théorie, tu dis, et t'ajoutes que c'est de Kantorowicz. Mais c'est qui et c'est quoi?
Ah, ouais. Alors Kantorowicz, c'est un philosophe politique du XXe siècle. Et alors, il a théorisé les deux corps du roi. C'est-à-dire qu'un souverain, ça a deux corps. Ça a son corps privé, son corps, ses douleurs, normal, quoi. Ouais. Et puis, il y a le corps qui appartient à tout le monde, le corps politique. Ça lui appartient plus. Et il y a une représentation à voir. C'est ce que Hollande et Sarkozy n'avaient pas réussi à faire. Tu te souviens, Sarkozy faisait du sport, il faisait du footing, il était en sueur, il y avait ses talonnettes, enfin, il marchait comme un déménageur, c'était un peu ridicule. Et puis Hollande, il avait son casque, sa cravate pas à droite, son scoot. Bon, il faut avoir une tête de statue. C'est comme ça. On est un peu monarchique. De Gaulle, Mitterrand, Giscard, Chirac, ils avaient tous compris ça. Et Macron, visiblement, il l'a compris, il l'a bien fait au Louvre, tu vois. Bon, est-ce que c'est important? Est-ce que c'est encore nécessaire? Je sais pas, mais en tout cas, lui, il pense qu'il faut le faire et visiblement, il le fait pas mal.
Je vous propose.
Merci, c'était limpide.
Je vous propose d'écouter le politologue Stéphane Rosès sur la capacité d'incarnation d'Emmanuel Macron. Il y voit une forme de bonapartisme.
Le président a, quand il parle, derrière lui, comme fondation, l'histoire de la monarchie, le Louvre, avant même Versailles. Et il a devant lui, dans l'enfilade, le petit carrousel où passaient, comme sur les champs, les troupes napoléoniennes de retour de victoire, mais aussi la Concorde et les Tuileries au lieu de la Révolution française. Et puis tout au fond, le quartier de la Défense, qui est... je dirais une symbolique sur un 21e siècle en construction. Donc, au fond, ce n'est pas seulement un ancien inspecteur des finances banquier, c'est un homme qui, parce qu'il est féru de littérature, de philosophie, de poésie, au fond, pense ensemble la politique au travers de ses dimensions historiques, culturel, technologique.
Voilà, Napoléon disait « Je tire mon pouvoir de l'imaginaire des Français ». C'est ce que nous explique Stéphane Rosès.
Autre symbole, dont ne parle pas Stéphane Rosès, c'est la pyramide. Oui. Et notamment la pyramide de Peille, c'est-à-dire qui incarne en quelque sorte la modernité et qui incarne une œuvre voulue par un président de la République, alors que vous vous rappelez que François Mitterrand a eu tout les grandes peines à démontrer qu'une pyramide en verre dans cet endroit, c'était formidable. Le fond, c'est vrai, tous les symboles étaient réunis. Et moi, ce qui me paraît... Non, mais vraiment, je reviens à ça.
Ce Alors
qui me paraît
incroyable,
c'était un hasard. et oui, il y a un côté... Il y a un côté napoléonien, évidemment, d'abord dans l'âge. On n'est pas habitué à avoir des... Alors, les premiers consuls étaient très jeunes, mais nous, on n'est pas habitué à avoir des présidents très jeunes. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose dans le dynamisme, mais... Mais cette marche, cette longue marche, n'était pas dynamique, elle était monarchique, ça c'est vrai. Donc il a su allier dans un même spectacle, après tout, toutes les références de l'histoire.
À la hussarde, et nous sommes avec Michel Cotta, et nous nous interrogeons aujourd'hui sur ce mystère de l'incarnation présidentielle, et sur le cas Macron. Je vous propose, Michel Cotta, d'écouter ce qu'Emmanuel Macron disait de sa conception de la présidence du pouvoir. C'était une interview du journal Challenge en 2016, et c'est particulièrement frappant, comme cet homme, qui n'a véritablement commencé à faire de la politique active que depuis très peu de temps, semble avoir réfléchi, on le disait, à la question du pouvoir en France sous l'empire de la Ve République. C'est une interview écrite, donc un extrait nous est lu par Aurélien Labruyère.
Pour moi, la fonction présidentielle dans la France démocratique contemporaine doit être exercée par quelqu'un qui, sans estimer être la source de toute chose, doit conduire la société à force de conviction, d'action et donner un sens clair à sa démarche. C'est bien pourquoi le président de la République, dans notre représentation collective, ne peut être tout à fait normal. Quand il le devient, nous courons un risque politique et institutionnel. mais aussi un risque psychologique collectif, et même un risque pour l'efficacité de l'action. Le peuple français, collectif et politique, peut se retourner très vite parce qu'il est en attente d'un discours qui donne à la fois du sens et des perspectives. Je ne pense évidemment pas qu'il faille restaurer le roi. En revanche, nous devons absolument inventer une nouvelle forme d'autorité démocratique fondée sur un discours du sens, sur un univers de symboles, sur une volonté permanente de projection dans l'avenir, le tout ancré dans l'histoire du pays. Une présidence de l'anecdote, de l'événement et de la réaction banalise la fonction. A l'inverse, dans une présidence de type gaulo-mitterrandienne, la recherche d'un champ, d'une focale, éloigne du quotidien et installe un rapport différent à l'actualité. Qu'est-ce que l'autorité démocratique aujourd'hui ? Une capacité à éclairer, une capacité à énoncer un sens, une direction ancrée dans l'histoire du peuple français. C'est une autorité qui est reconnue parce qu'elle n'a pas besoin d'être démontrée et qui s'exerce autant en creux qu'en plein.
Alors c'est très intéressant, Michel Cottin, hein, c'est l'évidence de la légitimité. Il ne veut pas prendre exemple sur gaulo-mitterrandien, il ne veut pas être non plus dans l'anecdote, il invente
il
quelque chose.
Surtout, c'est un éreintement de François Hollande, hein, ce qu'il dit. J'aime bien cette phrase où il dit « je ne parle pas de rétablir le roi ».
Oui, c'est, au fond, c'est
déjà,
incroyable.
C'est formidable, mais on voit bien qu'il s'inscrit dans la continuité et que son passage ne commence pas à la Ve République, je veux dire. Et il a vraiment réfléchi beaucoup sur l'histoire et l'incarnation pendant l'histoire, y compris celle du roi qu'au fond, il regrette de ne pas être.
Oui, bien justement, le 8 mai 2016, donc un an avant son élection, Emmanuel Macron, il est ministre de l'économie de François Hollande, certains pensent à lui évidemment pour la présidentielle, mais il est relativement seul, il a déjà donné quelques signes, il s'apprête à créer un mouvement, le mouvement En Marche, et donc ce 8 mai, il se fait inviter, lui le ministre d'un gouvernement socialiste, à Orléans, par un maire UMP, le maire d'Orléans, pour la cérémonie annuelle en honneur de Jeanne d'Arc. En tant que ministre de l'économie, c'est quand même assez incongru, mais c'est bien sûr une carte postale envoyée sur la route, pas encore très assumée, de la présidentielle. Écoutez, c'est le culot d'Emmanuel Macron.
Jeanne fend le système. Elle brusque l'injustice qui devait l'enfermer. Jeanne est bergère, mais elle se fraye un chemin jusqu'au roi et s'oppose au chef de guerre. Jeanne n'est personne. Mais elle porte sur ses épaules la volonté de progrès et de justice de tout un peuple. Elle était un rêve fou. Elle s'impose comme une évidence.
Michel Cottin, Jeanne d'Arc, c'est lui, il est gonflé même.
Ah oui, ça, je veux dire, tout le discours était, quand on le lisait justement avec ses yeux-là, et même lorsqu'il dit sa trajectoire est comme une flèche.
Oui, voilà.
Et on sent que sa trajectoire à lui, il la veut comme une flèche. Et ce qui est formidable, c'est que ça l'a été.
Qui va transpercer le système.
Non, le plus drôle, c'est que ça l'a été. C'était gonflé, mais prémonitoire.
Ah, mais alors, attends. Parce que là, c'est... des fois, on ne comprend plus rien. Macron, c'est Bonaparte ou c'est Napoléon ? Ça dépend de quoi ? C'est la Révolution, c'est l'Empire, on ne sait plus. Car après, il y a le trajet, le Louvre, Jeanne d'Arc, la Concorde, puis l'Élysée... Puis Brigitte, sa femme, leur couple, leur histoire.
Non mais c'est vrai, il y a beaucoup de symboles, mais il faut dire que les commentateurs, hein, moi compris, on ne connaît pas depuis longtemps Macron, donc on ne sait pas d'où ça vient tout ça, et on cherche dans l'histoire des moments pour se raccrocher, on essaye d'expliquer la chose, donc les symboles c'est ce qu'on trouve de mieux. Hein.
Ok.
Bon, merci de ça.
Je la mets.
Ça n'est pas une stratégie de com', comme vous l'avez vu, je n'ai pas parlé à Paris Match. Mon épouse, à laquelle je tiens beaucoup, a parlé à une journaliste de Paris Match. Mon épouse, elle ne connaît pas le système médiatique. Elle le regrette d'ailleurs profondément. Et elle a suffisamment de pressions qui sont liées justement à tous les journaux qui nous tombent dessus. C'est une bêtise. C'est une bêtise qu'on a faite ensemble. Non pas que je le regrette ou que ça ait beaucoup d'importance. Mais moi, ce qui m'importe le plus, et au-delà de tout, de mon engagement, c'est mon couple. C'est pas une stratégie de l'exposer. C'est sans doute une maladresse. Je l'assume pleinement. Et ce sera donc pas une stratégie qu'on reproduira.
Voilà, oui. C'est pas une stratégie qu'on reproduira. Hein.
Oui,
Emmanuel Macron
non, quoi,
s'excuse.
C'est à moitié.
On s'aperçoit vite qu'il y a quelque chose entre Paris Match et le couple Macron.
Et on s'aperçoit que la personnalité de Brigitte Macron n'est pas indifférente. Vous vous rendez compte, ce jeune homme de 17 ans qui dit à son professeur « Je m'en vais, mais je vous retrouverai et je vous épouserai » et qui, 20 ans plus tard, se marie avec elle. Il y a quelque chose d'assez anormal, enfin, atypique et surtout anormalement amoureux dans ses propos. Oui. Lorsqu'il dit « C'est ma femme, je tiens à mon couple », il le dit beaucoup.
Donc, c'est pas le côté glamour qui est mis en avant comme ses prédécesseurs ont pu le mettre en avant, en tout cas Nicolas Sarkozy et c'est tout d'ailleurs. Mais c'est le côté une aventure humaine qui parle, voilà. Qui dit de l'homme.
Voilà, donc c'est pour ça que je ne sais pas si Brigitte Macron s'est exprimée sans avoir l'accord du tout d'Emmanuel Macron, ça on le saura jamais.
Il y a quelque chose quand même, Michel Cotta, qui nous montre aussi son attachement très professionnel à l'image. Et nous, journalistes politiques, on le voit bien, hein, l'image est très contrôlée, sévèrement contrôlée. Il y a une sorte d'accord avec Paris Match, je ne sais pas combien ils ont fait de une. Ce professionnalisme, vous constatez aussi.
On voit bien que c'est un bébé de télévision. Dit lui-même qu'il regardait Dorothée quand il était petit. Donc, il a vécu avec la télévision, il sait l'utiliser.
Il sait l'utiliser mieux que ses deux prédécesseurs. Ça nous amène au discours du soir du premier tour.
Au mien, je veux dire merci à toute ma famille et à Brigitte. Toujours présente et encore davantage, sans laquelle je ne serais pas moi.
Bon, donc là, on avance, on met l'archive 7 sur son discours final au Louvre, autour de ces derniers mots. Nous ne céderons rien.
On dirait du Martinez, le leader de la CGT. Ok, on y va.
Tous au Louvre !
Vous avez choisi l'audace. Et cette audace, nous la poursuivrons. Et chaque jour qui vient, nous continuerons à la porter, parce que c'est ce que les Françaises et les Français attendent, parce que c'est ce que l'Europe et le monde attendent de nous. Ils attendent qu'à nouveau la France les étonne, que la France soit elle-même, et c'est cela ce que nous ferons. Peuple de France, ici rassemblé au Louvre, nous avons la force, nous avons l'énergie, nous ne céderons rien à la peur, nous ne céderons rien à la division, nous ne céderons rien aux mensonges, nous ne céderons même rien à l'ironie, à l'entre-soi, à l'amour du déclin ou de la défaite.
Bon alors Michel Cotta, là c'est le crescendo classique des soirs de victoire, l'envolée. Mais ce qui m'intéresse dans ce qu'on vient d'entendre, c'est la fin. Nous ne céderons rien à l'ironie, au déclinisme. Tout ça, c'est des choses qui sont dans l'air du temps et il se fait élire malgré tout ça et contre tout ça.
Peut-être que justement, les Français, ils sont déclinistes, on les dépeint comme déclinistes, mais peut-être qu'ils en ont assez. Il y a un côté aventurier de la politique chez Macron, qui moi me paraît très important. C'est-à-dire qu'il n'a pas forcément les codes, il n'a pas forcément envie de considérer que la politique c'est un métier, il pense que la politique c'est une mission. Et donc, c'est la mission, et d'ailleurs on s'en aperçoit de temps en temps, ça passe ou ça casse. Ça donne quand même l'idée d'un interlocuteur qui est un roc, quoi. Mmh. Alors, on va voir si ça maintient.
Sur la durée.
Si ça tient sur la durée, voilà.
Je voudrais vous faire écouter et vous faire réagir, Michel Cotta, sur cette réflexion de Thierry Pech, le directeur général du think tank Terra Nova. Nous avons été le voir dans les bureaux de Terra Nova, rue Beaubourg, à Paris. Et il évoque cette étape de la Ve République que représente, selon lui, l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir.
Je crois que le pouvoir macronien qu'on voit se dessiner de mois en mois incarne d'une certaine façon l'accomplissement ultime de la Ve République. Le moment 2017 est une espèce de nouveau moment 58, où le paysage politique tout autour s'effondre et on voit émerger une figure neuve. Non, c'est pas simplement un nouveau moment 58, c'est un moment d'accomplissement ultime de la Ve République, c'est-à-dire de ce régime qui affaiblit considérablement le parlementarisme, la formation des sensibilités politiques à travers la parole des partis, et qui favorise au maximum le pouvoir présidentiel.
Voilà, le pouvoir présidentiel favorisé au maximum.
Oui, mais sur les réflexions avec sur le Parlement, tous les présidents de la République, on s'est tous demandé au moment de l'élection d'un président de la République s'il allait avoir la majorité. Et puis la vague présidentielle a entraîné la vague législative, comme le plus souvent.
Oui. Et surtout depuis le quinquennat.
Donc c'est ça qui explique quand même qu'en même temps, il y a un président solide, mais qui dispose d'une majorité, qui est une grosse, grande majorité. Alors évidemment, est-ce que ça affaiblit le pouvoir parlementaire? Est-ce que le rôle de l'opposition est assez représenté? Peut-être pas.
Bon, c'est bon, là, on peut arrêter, on a fini.
Mais on a encore l'archive 9, non?
Ah oui, par rapport à la démocratie, l'Assemblée, ouais, si tu veux, on peut la passer pour finir sur la réaction de Michel Cotard, sur le symbole, la pyramide, le côté Napoléon, Bonaparte, ouais, pourquoi pas.
Si on compare le pouvoir du président de la République en 1964 et le pouvoir de la du président de la République en 2018, qu'est-ce qu'on peut observer? On observe qu'en 1964, Charles de Gaulle pouvait, dans son bureau, dessiner une ligne de chemin de fer.
Bon, c'est bon. Vas-y, arrête.
Je souhaite, dans 15
jours. Bon, c'est fini. Caro, c'était sympa de travailler avec toi. C'était bien.
Ouais, c'était cool. Hein. J'ai appris plein de trucs. Hein. Le web disruptif. Le corps du roi, tout ça. C'était cool.
Les deux corps du roi.
Ah oui, je voulais dire, les selfies sont complètement ratées.
Ah, c'est à cause de Wistiti, là.
Je suis moche. Enfin, est-ce qu'on peut la faire?
D'accord. Allez.
Super. Allez, on fait pas Wistiti du coup.
Non. Ok.
Super.